Extrait de l'Apocalypse selon saint Jean, ce paragraphe. Un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Petit extrait de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4. Ce court passage de l'Apocalypse livre l'un des images clés de la liturgie céleste, celle du sacrifice, entre guillemets, perpétuellement accompli pour le salut du monde par le Christ, Fils de Dieu, l'agneau debout comme égorgé. L'encens monte vers le trône divin, à la fois porteur et figure de la prière de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux qui, selon le langage du christianisme primordial, ont reçu le baptême du salut. Parce que la liturgie terrestre est elle aussi figure de celle du royaume de la béatitude, le rituel de l'encensement, intimement lié au sacrifice rédempteur, ne peut concerner par priorité que les oblats désormais bénis et appelés à leur transsubstantiation par l'Esprit-Saint. De ces oblats, apte à l'imposition de l'encens, l'exact caractère en est donné d'avance par le canon romain. Ils ont été de simples dons créés par Dieu, ec dona. Ces dons ont donc été rendus à Dieu dans la perspective du sacrifice, ec munera. Le canon romain ajoute ces hosties saintes et sans tache, ec sancta sacrificia illibata. Sacrificia ici fait écho au sacrificium de la prière Veni Sanctificator par laquelle l'Église a demandé la bénédiction du Saint-Esprit. S'opère ainsi au sein de l'action sacrée, mais ici d'une façon privilégiée, la relation constante qui marque toute l'histoire de la religion chrétienne et qui s'établit entre terre et ciel avec l'élan, l'une vers l'autre, de deux forces sacrées. La première est ascendante, l'offrande qui monte vers Dieu chargée des louanges et des supplications. L'autre descendante, les bénédictions et grâces divines qui nous seront dispensés par l'accomplissement du sacrifice. C'est très exactement la traduction qu'en fera la prière qui accompagne l'encensement des oblats. Incensum istud a te benedictum ascendat a te domine et descendat super nos misericordia tua. Que cet encens béni par vous, Seigneur, monte vers vous et que descende sur nous votre miséricorde. La ritualité, ainsi reconsidérée, c'est la physionomie de l'offertoire, stabilisée au Moyen-Âge et restée en vigueur depuis lors, et elle présente un double aspect. D'une part, les prières de l'offrande restent adressées au Dominus Deus, ou au Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, conformément à l'antique fonds romain. D'autre part, prières et rites postérieurs, issus de romanité et médiévale, sont destinés à glorifier la Sainte Trinité. C'est surtout la ritualité qui met l'accent sur la louange adressée au Dieu un et trine. Ainsi, dans la bénédiction de l'encens, la prière s'adresse encore au Dominus, mais le célébrant dépose trois cuillerées du précieux parfum dans l'encensoir pour illustrer la réforme trinitaire, la référence trinitaire. La ritualité de l'encensement des oblats est certes alignée sur celle de la bénédiction de l'encens, mais parce qu'elle est liée à l'accomplissement du sacrifice rédempteur, son expression est plus complexe et la décomposition en deux phases successives révèle une volonté de traduire une mystique aux multiples aspects. La première de ces phases est la mieux définie. Le sacerdoce commence par balancer l'encensoir fumant au-dessus des oblats en dessinant trois signes de croix successifs. Cela signifie ainsi que les grâces du sacrifice trouvent en effet leur source dans la croix rédemptrice, œuvre de la Sainte Trinité. La seconde phase d'encensement impose d'autres explications par la présence de figures circulaires répandant leur parfum autour des oblats. Le caractère sacré que revêtent les oblats au cours des saints mystères a certainement guidé l'Église dans sa volonté d'instituer sous forme de cercle un encensement qui se juxtapose à celui que le célébrant a pratiqué sous forme de croix. L'analyste peut percevoir que ces deux séries d'encensements rituels au-dessus des oblats sont liées par le même esprit, bien que les liturgistes restent avares d'explications. L'encensement en forme circulaire est d'origine monastique. Il est même le seul usité vers 1130 dans la conventualité cistercienne, indiqué en latin « semel volvat illud circa calicem ». Mais on le retrouve dès 1080 dans les usages clunisiens « unum quasi circulum », joint à un triple encensement cruciforme. Quant à l'antique coutume carthusienne, elle se limite à un encensement cruciforme suivi d'un encensement circulaire, in modum coronae. Il va de soi que dans la liturgie romaine de principe, le passage du rite à trois encensements cruciformes et trois encensements circulaires date de la période témoin où se manifeste l'essor de la théologie trinitaire. L'usage clunicien, décrit ci-dessus, en constitue le prodrome, mais c'est simultanément une période médiévale où la liturgie s'en embarrasse d'expressions allégoriques. Paraît ainsi une différenciation interne dans la réalisation du mode circulaire d'encensement. Les deux premiers cercles se pratiquent dans le sens droite-gauche, alors que le troisième s'opère de la gauche vers la droite. L'explication de cette divergence rituelle trouve sa source dans les dispositions prises par l'Église à l'égard de la prière accompagnatrice des gestes d'encensement. Le premier hymnistiche de cette prière, « Que cet encens béni par vous monte vers vous, Seigneur », souligne l'accomplissement préalable du triple encensement cruciforme. Le deuxième hymnistiche de la prière, « Et que descende sur vous votre miséricorde », concerne exclusivement non pas les deux premiers encensements circulaires, mais précisément le troisième, celui qui s'accomplit de la gauche vers la droite. Le terme capital de la prière d'encensement est ici la miséricorde, dont la forme divine la plus manifeste est la venue sur terre du Christ, Fils de Dieu, pour le rachat du monde par son sang. Cette équivalence théologique possède même une référence biblique que l'on retrouve dans la fête de la présentation de Jésus au temple. Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde au sein de ton temple, Ainsi s'exprime le psaume 47, verset 10. Le dernier encensement circulaire sur les oblats vise donc le Verbe incarné, les deux précédents se référant par déduction au Père éternel et à l'Esprit Saint. La symbolique des notions bibliques de droite dextré et de gauche sénestré éclaire définitivement la signification allégorique des cercles. L'amour infini du Père et de la sainteté de l'Esprit consolateur dextré à l'œuvre pour le salut de l'humanité pécheresse, sénestré, rejoignent au sein du sacrifice rédempteur le Fils de Dieu fait homme, sénestré, mort, ressuscité et glorieusement assis à la droite de Dieu, dextré. Ainsi proposée, l'explication conduit à rechercher plus avant la signification que l'Église entend accorder au cercle dans le cadre général de la liturgie et plus précisément dans celui de l'encensement des oblats. Tel sera l'objet de notre prochaine réflexion. En présentant au cours de l'offertoire le recours de l'Église à l'usage d'encensement de forme circulaire au-dessus des oblats, les développements qui précèdent conduisent fatalement à s'interroger sur la signification apportée dès le Haut Moyen Âge, ce type d'expression sur le plan liturgique. En un domaine aussi surchargé d'ombre, on ne peut pas écrire que la doctrine s'est empressée de fournir quelque éclairage. On se trouve plutôt confronté à des discours fort généraux où le cercle, à cause de sa régularité et de sa perfection graphique, par rapport à un centre imaginaire, revêt un caractère symbolique tourné vers un souverain bien. La signification du cercle reste d'autant plus difficile à déterminer que son origine païenne peu douteuse a été christianisée, entre guillemets. Une première perspective se dégage dès l'époque romane à l'analyse de l'architecture des églises et abbatiales. Dans les monastères cisterciens, on observe presque toujours dans la muraille du chœur une ouverture de forme circulaire, l'oculus, sous laquelle s'ajoutent trois autres baies pour illustrer, grâce à la pénétration de la lumière solaire, le Dieu unique en trois personnes. Pareillement, la statuaire du haut Moyen Âge entoure, au centre du tympan dominant le portail d'entrée, l'image du souverain juge de multiples rayons au sein d'une mandorle qui pourrait bien être une déformation ellipsoïdale du cercle. Ces deux exemples, choisis parmi tant d'autres, mettent en évidence la symbolique du cercle fondée sur un mode statique, quoique d'une longue durabilité, parce que fixée dans la pierre. Elle est assurément rappel d'une vérité éternelle pour ceux qui passent, mais aussi vertu pédagogique et formatrice. Dans le déroulement rituel des saints mystères, la liturgie va prendre en compte à son tour la symbolique circulaire et la placer dans une perspective dynamique, autrement plus expressive. La procession, institution antique perpétuée jusqu'à nos jours, en sera le vecteur sacré. Cette démarche progressive du célébrant et de ses ministres est celle de l'Église inspirée, à qui tout pouvoir a été remis par Dieu, cheminant vers un terme appelé à devenir sacré et dont elle va faire le centre de sa giration avant de procéder à sa sanctification. Une giration de la droite vers la gauche. C'est ainsi que lors de la consécration d'une église, l'évêque avec son clergé fait trois fois le tour de l'édifice en aspergeant ses murs d'eau bénite. De même, l'évêque fait-il sept fois le tour de l'autel pour le bénir. D'autres usages sont identiquement décryptables au cours de l'année liturgique. Monsieur le chanoine Amier rappelle, dans son livre « La veillée pascale dans l'Église latine », qu'à l'époque post-carolingienne, des usages locaux pendant la vigile pascale imposaient au clergé une procession avec sept girations préalables autour du feu nouveau avant sa bénédiction. Un rituel apparenté était pratiqué autour du baptistère avant la bénédiction des faux. Rappelons enfin qu'après les obsèques, le rituel de l'absoude impose aux célébrants de faire le tour du catafalque, en commençant par la droite et en finissant par la gauche, pour asperger et encenser le corps du défunt. Dans tous les cas relevés ci-dessus, la giration sacerdotale prend pour centre un élément profane, appelé à être transféré dans la sphère du sacré. Tel est très exactement le sens de la démarche rituelle qui accompagne l'encensement des oblats. C'est, écrivait l'auteur allemand Jungmann, la plus complète expression de la bénédiction et de la consécration, et en ce sens, une reprise plus expressive du Veni Sancti Sanctificator.